ma grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour, et puis, puisque c'est la nouvelle année, bonne année à tous. Alors, nous allons retourner au Festival des minorités de Douarnenez, où, entre autres, j'ai rencontré Régis. Régis est médiateur auprès des gens du voyage pour le département du Finistère. Alors, encore un médiateur, allez-vous dire ? Eh bien, oui, parce que il apparaît que ça se passe pas partout pareil. On a écouté Gaëlle Loiseau, on a écouté Nara, et tous nos médiateurs ont pas, la même vue sur leur métier, la même façon de l'appréhender. Donc j'ai trouvé intéressant de vous faire écouter ce que m'a raconté Régis. Eh bien bonjour, je suis en face, je suis toujours au festival de films de Douarnenez et je suis en face de Régis. Et Régis, autant que je sache, tu me reprends hein, si je dis une connerie Régis.
Ça ne manquerait pas.
Tu es, je crois, médiateur avec les gens du voyage du Finistère.
Oui, ça fait depuis décembre 2000. Donc voilà, que je travaille avec les gens du voyage. Donc pour l'État et pour le Conseil Général ici. Et que je fais connaissance donc du coup avec la population de gens du voyage du Finistère. Et puis voilà, donc j'aime bien.
Et alors comment t'as débarqué là-dedans ?
Comment j'ai débarqué là-dedans ? Ben, très franchement, très souvent, les gens, ils aiment bien faire des grands discours sur leur vocation énorme qu'ils ont par rapport aux gens du voyage. C'est pas forcément les plus intéressants. Mais moi, je dirais simplement, je vais être très franc, qu'à ce moment-là, j'étais au chômage, en fin de droit, et je savais plus quoi faire. Et d'un seul coup, j'ai découvert par quelqu'un qu'il y avait un poste de médiateur qui était ouvert. Je me suis présenté, j'ai eu le boulot.
Mais alors, comment ça se passe ? Parce qu'on ne devient pas quand même médiateur comme ça du jour au lendemain.
Bah, comment ça se passe ? Bon, après, voilà, pourquoi j'y suis allé ? Parce que j'avais déjà bossé avec les gens du voyage 8-10 ans avant, quand j'étais objecteur de conscience. Voilà. Et j'imagine que toi, t'as pas fait l'armée non plus.
Si, moi j'ai fait 16 mois en Allemagne.
À la galère.
Ouais, comme tu dis. Ouais. Et alors ?
Et alors, du coup, à ce moment-là, quand j'étais objecteur, j'ai bossé pour une association qui, comment dire, m'a donné... Enfin, il fallait que je fasse une enquête sociale, un peu un truc comme ça, sur un terrain de gens du voyage à Besançon. C'était en 92. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à découvrir, quoi. Très timidement, parce que j'étais un tout jeune homme timide qui allait les voir, et qui pareil, comme beaucoup de gens, ne les connaissait pas, donc avait un petit peu peur, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à me poser plein de questions, quoi. Alors, après, comme tout le monde, j'ai voyé depuis que j'étais petit, hein, j'en avais vu à l'école, qu'on mettait derrière avec des cahiers pour faire des petits dessins. Voilà, j'en ai vu qui passait sur la place du village en face de chez moi. D'ailleurs, il y en avait un qui avait un gros chien, ils ont tué mon chat. Mais c'est pas grave. Hein, c'est... Et voilà, enfin... J'étais comme tout le monde en fait en même temps au début, quoi. C'est-à-dire que j'étais comme plein de gadgets, comme on disait les gens du voyage, qui connaissent pas bien les gens du voyage, qu'on a un peu peur parce qu'on a entendu plein de bêtises. Et puis depuis tout petit, hein, les gens du voyage, ils volent les poules, enfin tous ces trucs-là. Et puis ils volent les enfants, et puis plein de choses comme ça. Et puis bon voilà. Et puis je suis devenu aussi sociologue aussi entre temps. Et du coup ça m'a un peu aussi ouvert sur le monde. Et puis, j'ai toujours bien aimé les gens qui voyageaient, tout ça, enfin, etc. Sans faire d'image stéréotypée des gens du voyage, parce qu'on dit gens du voyage, mais en même temps, c'est qu'un truc administratif de l'État français. On en a parlé pendant tout le festival. Là. Ce sont des gens avec une diversité, mode de vie, etc., compliqué.
Y el camarón como que esté quemado, bumbum 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 que esté quemado. Túmbale pam pa la que me pica, túmbale pam pa la que me muera, túmbale pam pa la que me pica, túmbale maca la onda le queda, túmbale pam pa la que me pica, túmbale pam pa la que me muera, túmbale pam pa la que me pica, túmbale maca la onda. Dice que el perrito cantó por rumba. Y el camarón con bulería. Dice que están los dos muy desconfiados.
Mais revenons sur ton poste de médiateur.
Moi.
Est-ce qu'il y a une formation spécifique ou est-ce qu'on te lâche dans la nature comme ça ?
Comment te dire ? Quand on a commencé à avoir des postes comme ça, en fait, on a commencé en Bretagne avec quelqu'un dans le Morbihan qui avait posé un dossier pour monter ce poste-là. Voilà. C'était le tout premier poste, c'était dans le Morbihan, c'était pas dans le Finistère. C'était quelqu'un qui était assistante sociale, qui travaillait avec les gens du voyage depuis des années. Et qui s'était dit, bon, il manque un truc. Bon, voilà. Donc elle a créé un dossier, elle a fait un dossier, elle a déposé à la préfecture, elle a proposé ses services et puis elle a créé le poste, en quelque sorte, en obtenant des subventions au Conseil général de l'État et tout ça. C'était le premier. Deuxième, c'était le mien après. Tu vois ? Et comment te dire, on n'avait pas de formation spécifique. On n'était pas des gens qui étaient passés par... Puis je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment une formation spécifique. Je pense qu'il faut plus des qualités humaines, hein, sans m'envoyer de fleurs. Mais enfin, c'est plus des qualités humaines, sociales, humaines, qui font qu'on va être curieux, vouloir comprendre, être patient. Écouter, s'informer, prendre son temps de discuter avec eux, parce qu'il faut souvent prendre beaucoup de temps. La palabre, on parle beaucoup de palabre pendant le festival, la palabre chez les gens du H, c'est aussi important, enfin, on parle. C'est tout ça, enfin, tout, voilà. Après, des formations spécifiques, c'est un petit peu... Puis moi, ça me fait bizarre quand on dit ça, parce que ça me fait penser que c'est comme si on considérait que c'était des handicapés ou des gens un peu bizarres.
Non, enfin, ce que je voulais dire voilà. Par là, c'est que...
D'ailleurs, même les handicapés disent souvent qu'ils aimeraient bien qu'on les traite comme des humains et non
bien
pas
sûr.
Comme des gens...
Non, ce que je voulais voilà. dire par là, c'est que moi aussi, hein, je suis loin d'être un spécialiste. C'est un monde que je découvre depuis 3 ans, mais c'est vrai que c'est un monde un peu spécial qui, lui aussi, a d'ailleurs ses a priori vis-à-vis de nous, les gadgets, et qu'il y a effectivement des frontières à effacer et que c'est vrai que si on est autodidacte sur ce truc, ça peut être plus ou moins long. Surtout que toi, si j'ai bien compris, ton poste de médiateur, c'est d'être en fait un intermédiaire entre les gens du voyage et des institutionnels.
Oui, alors bon, c'est certain que ça peut toujours être utile d'avoir des formations sur les dispositifs sociaux, par exemple, tout ce qui est RSA, enfin, tous ces
enfin,
dispositifs-là.
Connaître tous les rouages.
Connaître un petit peu les rouages, ou au moins savoir orienter. C'est-à-dire, on n'est pas non plus la science infuse, on ne sait pas tout, mais au moins savoir qui c'est. Voilà. Moi, je travaille comme ça ici dans le Finistère. Moi, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Par contre, si un voyageur me dit « Ah, moi, j'ai un problème avec mon RSA, je sais pas quoi, ou un autre, mon CMU, enfin, ces dispositifs-là », je lui dis bah, « Va voir tel ou tel service qui est compétent là-dessus et qui saura te conseiller. C'est savoir se renseigner vers les bonnes personnes aussi. Je veux dire, il y a plein de dispositifs que je ne connais pas bien. Mais je sais qu'ils existent et je sais où on peut avoir les informations. Et c'est ce que je partage avec les gens du voyage quand ils me demandent. Mais ça pourrait être avec d'autres populations. Voilà.
Bien sûr.
Voilà, ouais.
Sa caravane bosselée, la petite manouche ressemble à sa curiosité s'adonne. Plaque immatriculée comme adresse, salut, ça va, la jolie vase. Si t'as pas raillé à vos soupers, il te reste un peu nigo pressé. Tu l'as déjà podro. Déjà ta vie docile, amitiés éphémères, balayées dans un courant d'art. Il faut bien reprendre la route, se construire seul avec cette dose. Tu l'as déjà podro, tu l'as déjà podro.
Puisque tu es charnière entre les gens du voyage et les institutionnels, quel est le plus difficile des contacts ? C'est avec les gens du voyage ou les institutionnels ?
À ton avis?
Non, je préfère l'entendre.
Ouais. Bah, moi, je préfère passer beaucoup de temps avec les gens du voyage qu'avec certaines institutions, quoi. Enfin, voilà, les institutionnels, après, faut pas non plus être quoi. Ni tout noir, ni tout blanc. Enfin, les êtres humains sont compliqués, c'est partout pareil. Chez les élus, parce que c'est tout de suite à eux qu'on pense. Chez les élus, les élus du peuple, c'est vrai que parfois, il y en a qui pensent, parce qu'ils ont été élus, qu'ils ont la science infuse et puis qu'ils savent tout. Bon, surtout. Donc, c'est pas toujours facile de discuter avec eux quand on leur montre qu'ils sont déficients par rapport à un sujet, par exemple. Bon. Surtout les gens du voyage, par exemple. Là, c'est difficile aussi parce que de toute façon, chez les institutions, dans les institutions, on retrouve toutes les représentations négatives que l'on a ailleurs. Donc il faut expliquer beaucoup, comme à tout le monde. Ça reste des humains dans les institutions. Hein. Donc voilà, ils ont aussi leurs préjugés, leurs représentations, positives ou négatives, peu importe, leurs clichés, leurs stéréotypes, leurs trucs, leurs méconnaissances. Beaucoup de gens qui sont dans des bureaux, qui ont de bonne volonté, mais qui, comme ils sont jamais sur le terrain, ont du mal à se représenter ce qui se passe vraiment. Donc il faut essayer de leur expliquer ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent quand on est sur le terrain et tout ça. C'est aussi tout ça, quoi. Puis après, les gens du voyage, c'est pas facile non plus, parce que d'abord, c'est pas toujours certain qu'ils vont m'accepter ou qu'ils vont accepter un galjo qui a la prétention de faire quelque chose de bien ou mal pour eux. Enfin bref, voilà. C'est une bonne leçon d'humilité aussi, je pense, ce boulot-là, parce que du coup, à part dans ce festival où on me voit partout là depuis une semaine, moi j'ai tendance à bosser discrètement, quoi. J'aime pas trop me mettre en avant parce que de toute façon, si tu te mets trop en avant avec les gens du voyage, tu dures pas longtemps. Hein. Voilà, quoi. Voilà, bon. Et moi je pense que. Après, c'est comme toujours, enfin, quand on parle des voyageurs. C'est une diversité de personnes, c'est des individus. On a trop tendance à penser groupe, en plus quand on parle d'eux, c'est des individus. Chaque individu est différent, il y a des personnes avec qui je m'entends bien, d'autres avec qui je m'entends très bien, d'autres avec qui c'est plus difficile, avec qui je m'engueule des fois, ça m'est déjà arrivé plein de fois, enfin ça fait partie de la vie, et c'est normal. Ou je me fais engueuler, je me suis déjà fait engueuler en début de semaine là, dans le festival, je me suis fait engueuler par un voyageur parce que j'avais fait une connerie. Il me l'a dit en face, bon, on a bu un coup ensemble après, ça allait mieux. Voilà.
Mais alors, comment ça se passe Bon, je sais bien que tu ne peux pas tout détailler, mais ton quotidien, tu vas sur les airs, tu les sollicites ou c'est eux qui te sollicitent?
Ça dépend, c'est compliqué, parce qu'après j'ai un travail qui est, comment dire, où je suis dans une situation un peu vulnérable des fois, faut faire attention quoi. Alors du coup ça va dépendre de ce que les gens ont compris en face de moi, de ce que je faisais quoi. Parce que je suis obligé d'être prudent parfois, parce que si je veux durer aussi avec les élus, c'est pareil. Hein. Et donc tout ça, ça demande de la...
Du doigté.
Du doigté, on va dire, pour faire attention à faire avancer les choses petit à petit, sachant qu'en même temps, moi je suis pas... Enfin voilà, modestement, sachant que c'est pas moi qui fais avancer les choses, c'est les acteurs qui sont sur le terrain qui doivent faire avancer les choses. C'est les élus et tout ça. Moi je suis qu'un outil parmi plein d'autres. Et quand les gens m'appellent, les gens du voyage peuvent m'appeler des fois, oui. Parce que mon numéro de téléphone circule chez eux et puis que bah, ils peuvent m'appeler pour des choses pour lesquelles je peux répondre ou pas. Au début, ils m'appelaient pour beaucoup de choses, jusqu'à 10h, 11h du soir. Et à un moment donné, j'ai dit stop, là, il faut mettre des... faut comprendre. Hein. Mais bon, voilà. Hein, bon, un peu comme chez les agriculteurs, des fois, quand on... Enfin, chez les paysans, les copains, comme ça, bon, ils vont pas t'appeler quand ils bossent, ils vont t'appeler à 8h le soir. Bon, les gens du village, c'est pareil, ils vont t'appeler plus à 8h le soir. Bon, je leur ai fait comprendre aussi à certains qu'il y a une heure où j'arrête. Hein. Bah, des fois, je peux aussi leur dire que je peux rien faire. Ils m'appellent, ils me racontent un truc, puis je leur explique que... Bah non, quoi, enfin là, c'est pas possible, j'arriverai à rien, c'est... Voilà, situation complètement... soit c'est parce que la situation est complètement bloquée, voilà, je sais pas, ils demandent ouais, comment on pourrait les stationner, parce que on a quelqu'un qui va être hospitalisé, ou qui est à l'hôpital, mais qui a besoin de se faire suivre par l'hôpital. Bon, c'est une situation légitime, hein, voilà. Et est-ce que tu pourrais nous avoir un terrain à Brest? Ah bah attends, ouais, mais ils ont pas de terrain à Brest pour ça, quoi, tu vois. Donc je dis non, et puis, ah mais il y a peut-être un terrain à Plabennec à côté, voilà, bon, bref, c'est ce qui s'est passé cet été. Bon là, le terrain, on l'a eu, mais parfois on n'a rien. Donc moi je leur dis, voilà, je peux, vous êtes comme moi, hein, je vais peut-être appeler 3 mairies, ils vont tous m'envoyer balader, et vous n'aurez rien. Bon, ça arrive. Bon, après, il y a des tas de... tas de raisons pour lesquelles ils peuvent m'appeler différentes, mais ouais.
Et alors, dans la relation avec les institutionnels, les mairies, les départements, enfin je ne sais pas quels sont tous les rouages avec lesquels tu travailles, mais est-ce que tu ressens plutôt un progrès au fil des années ou au contraire la méfiance dure, voire même un durcissement ?
Dans le Finistère, globalement, on ne peut parler que de progrès, en fait. Sans faire de dans la langue de bois, hein, c'est pas, c'est
ouais,
pas
ouais, du tout. Bien sûr.
On est parti il y a 10 ans en arrière, il y a 13 ans en arrière, avec 300 ou 400, je ne sais plus, places pour les caravanes. On en a entre 700 et 800 aujourd'hui. Donc on a plus que doublé la capacité d'accueil. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est la panacée partout. Les aires d'accueil, c'est pas toujours chouette de vivre dessus. Bon, voilà. Mais malgré tout, c'est un effort et ça veut dire qu'il y a, il y a une discussion qui s'est entamée entre les gens du voyage et entre les voyageurs et eux, quoi. Donc entre les tziganes, les voyageurs, les Sinti, qu'est-ce qu'on a ici ? Les Moanouches. Ici, on a principalement des Moanouches. Hein. Voilà, bon. Et puis des voyageurs, des forains. Bon, et quelques autres, voilà. Enfin, sans rentrer là-dedans, je reprendrai un peu pour moi, français itinérant, là, que défend Milo de l'âge. Bon, que je trouve que c'est un moyen de revendiquer une citoyenneté. C'est un peu un concept universel qui me plaît. Bon, après, c'est à eux de voir. Hein. Mais voilà. Donc oui, en fait, dans le Finistère, on a un dialogue qui est entamé, je dirais, dans les communes, entre les voyageurs. Mais vraiment, c'est dans la commune. Ça ne dépasse pas la commune, en général.
C'est au cas par cas, quoi.
C'est au cas par cas, ouais.
De ville à ville, quoi.
Ouais, c'est la ville avec les voyageurs. Mais c'est jamais au niveau du département ou des grandes institutions. Le gros problème qu'on a dans le Finistère, c'est qu'on n'a pas d'association qui existe vraiment efficace. Et que des fois, ça me ferait plaisir qu'il y en existe une, avec quelques voyageurs qui soient bien motivés. Sauf que ça, bon, quand on connaît un peu le milieu, on sait que c'est compliqué. Bon, ça arrive, ça vient, il y en a dans plus en plus de départements, il y a des associations qui se défendent, de voyageurs qui se défendent et tout ça. Mais ça reste quand même encore marginal, on va dire, voilà.
Et alors, toi, tu me disais que ce monde, bah, tu l'as découvert comme tous les gadgets assez tôt. Enfin, on a tous vu passer des caravanes dans nos villes, nos villages. Toi, tu as connu des tziganes à l'école, moi pas. Hein. Je suppose que depuis le temps maintenant que tu travailles avec eux, tu es un peu rentré dedans. Et moi, il y a une question que je pose assez souvent. C'est que moi, depuis que je découvre ce monde, il y a un tas de gens qui soit sont tziganes, gens du voyage, soit sont gadgets, et me disent « Oui, ben, on est tous humains, on est tous pareils, on a le sang rouge, mais nous, du voyage, on n'est pas comme vous, les gadgets. » Et les gadgets me disent « Ah ben oui, mais ils sont comme nous, mais ils sont pas comme nous. » Pour toi, quelle serait la différence essentielle entre les deux mondes, s'il y en a une ?
C'est un mode de vie en caravane, itinérant, avec un passé, on va dire, une histoire particulière. Voilà. Après, pour moi, hein, ma conception des choses, c'est qu'il n'y a pas plus de différence entre toutes ces personnes qui vivent en caravane, hein, et puis les gadgets, les sédentaires, qu'entre un berger des Pyrénées et un paysan breton, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est une question culturelle, quoi.
C'est une question culturelle, c'est une question d'histoire, c'est une question de trajectoire dans l'histoire, enfin, tout ça. C'est une question aussi du rapport à la société dominante, majoritaire, puisqu'on est dans un festival des minorités. Et c'est vrai que aussi ce qui a façonné la façon d'être de nos camarades voyageurs aujourd'hui, c'est cette relation de mépris, de persécution qu'a entretenu l'État, hein, avec un racisme d'État très fort, quoi. Hein, si on pense au carnet anthropométrique de 1912 et puis jusqu'aux dernières déclarations débiles qu'on a entendues récemment, et ceci depuis 2010 avec Sarko, là, on voit bien que là, on a une population que la France a façonnée d'une certaine manière par les lois, quoi. Je suis pas sûr que si on était dans un monde meilleur en France, où on les avait pas persécutés, qu'aujourd'hui, ils auraient la même identité. Et je suis pas sûr qu'ils auraient la même frontière non plus. Voilà.
Eh bien, écoute, je vais te dire un grand merci. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais vous dire la tchodrome. Et comme d'habitude, je vais vous lire des textes pendant le générique de fin. Ces textes sont tirés de l'Évangile du Gitan, qui a été écrit par Jean-Marie Kerviche. Le premier texte a pour titre « Le prince ». Je m'étais mis au lit. La fenêtre de ma caravane était grande ouverte. C'était fin juillet et déjà les beaux jours étaient moins longs. Mon angoisse s'était endormie sur mon cœur, cette angoisse gavée de la chair de mon esprit. J'observais le ciel, qui se laissait laver les pieds par la pluie généreuse et heureuse de le faire. Le ciel était assis comme un prince sur un nuage. Moi, j'étais bien, un peu libéré de l'angoisse. Je faisais des projets, sachant qu'au matin, il serait déjà assassiné par la vie. Je voulais veiller avec eux, les garder encore un peu. Mais nos yeux sont des enfants, et innocemment, ils s'endorment sans faire de bruit. Alors, avant de m'évanouir dans l'empire de l'oubli, j'ai déposé un baiser sur les douces lèvres de la nuit. Le deuxième texte a pour titre « Les truites sauvages ». Dans mes veines coule un ruisseau rempli de truites sauvages. Depuis quand ne suis-je pas allé pêcher ? Au bord de la Seine, près de Chatou, un gitan jette sa ligne à l'eau. Seul parmi ses frères les arbres, il pêche, ses yeux dans les yeux du ciel, dans une liberté encore vierge. Il chante, non de tristesse ni de joie, mais pour accompagner le poème que le vent récite dans une communication fraternelle. La rivière se baigne toute nue, un grand saule baigne ses feuilles dans l'eau, un rayon de soleil se faufile entre les rideaux rouges de sa caravane. Puis, le gitan repart, traînant derrière lui sa coquille de bois. Comme j'aimerais, moi aussi, pouvoir flâner comme autrefois au bord de la Seine, mon âme à mes côtés, puis rentrer dans ma caravane pour dormir sur des roues. Combien de temps vais-je encore rester prisonnier de la ville ? Je dois quitter cet immeuble où me tient la maladie. La mort ne doit pas savoir où elle va mourir. C'est cela, l'éternité. Ce texte a pour titre « Le révélateur ». Le gitan solitaire a mis sa caravane au rideau rouge sous un arbre. L'arbre est un franciscain, un vrai prêtre. C'est lui qui accueille les nomades sous son ombrage. Une forêt est un véritable monastère. Le moine, répudié, écrase son corps sur la modeste table de formica et il écrit son évangile. C'est sa passion, son travail, son salut. Le gitan n'écrit rien. Il laisse son esprit écrire à sa place. Il a dans sa poche le long couteau de la pensée, tranchant comme l'éclair. Certains disent qu'il est fou, mais il est beaucoup plus que fou. Il est le révélateur. Après tout ce qu'il a fait pour ses frères, si quelqu'un devait cracher à la face de Dieu, ce serait lui. Pourtant, il écrit à sa gloire. Peut-être qu'aucun éditeur ne consentira à publier son évangile. Peu importe. Le vent le publiera un jour ou l'autre, c'est certain.